France Inter.
Tout de suite, c'est le journal avec vous, Élie Abergel. Bonsoir, Élie.
Bonsoir, bonsoir à tous. Un tonnerre d'applaudissements au Congrès cet après-midi à Versailles. Journée historique pour le droit des femmes. Les parlementaires votent pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Donald Trump se frotte les mains. La Cour suprême annule un jugement du Colorado qui déclarait le milliardaire inéligible dans cet État. Le parquet de Melun demande un procès pour homicide et blessures involontaires aggravées dans l'affaire Pierre Palmade. Et puis, elle peut reprendre la mer, l'esprit léger, la navigatrice Clarisse Kremer, blanchie après des accusations de triche.
France Inter.
La France devient donc le premier pays à inscrire l'IVG dans la Constitution. À Paris, des centaines de personnes ont suivi le scrutin à Versailles cet après-midi, en direct sur un écran géant, place du Trocadéro, pour vivre cette victoire féministe historique, Manon Derdevey.
À l'instant même où les résultats du vote sont annoncés, la foule exulte. La tour Eiffel scintille, les fumigènes lancent des nuages violets. Josiane, 85 ans, est arrivée en tout début d'après-midi pour suivre les discours. Elle milite pour l'IVG depuis 50 ans et ce soir, elle ne retient pas ses larmes.
C'est une grande joie parce que ça marque un pas de la société française et un pas pour toutes les femmes. Moi, j'ai avorté, l'avortement était interdit déjà. Donc, il y avait plein de femmes qui mouraient d'avortement. On est très contentes et très fières.
Voilà ce que l'on peut lire sur le panneau que Clara tient dans sa main. Elle est venue avec sa mère.
C'est bien une victoire aujourd'hui, même si le combat est loin d'être terminé. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde entier, il est important de le marquer dans les textes les plus importants. C'est quand même un grand jour.
Autour d'elle, des centaines de personnes se prennent dans les bras, dansent aussi, comme Sophie.
Super heureuse et super émue, parce que je pense que c'est une grande avancée pour nous, en tout cas. Puis je pense à toutes ces femmes qui ont dû, dans le passé, faire des avortements terrible et je pense très fort à elle.
Une grande fête qui a duré une partie de la soirée. Les manifestantes militent désormais pour assurer le droit à l'IVG partout dans le monde.
Un reportage de Manon Derdevey sur France Inter. Emmanuel Macron salue une fierté française, un message universel. Le président annonce une cérémonie de scellement pour la première fois ouverte au public ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À chacune, la liberté de décider de son propre destin, se réjouit la ministre de la Culture, Rachida Dati. Olivier Faure, le dirigeant du PS, estime que ce vote est pour toutes les femmes décédées, jugées, condamnées, pour celles qui se battent partout dans le monde pour leur liberté, fierté et satisfaction. Aussi chez Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale qui présidait le Congrès cet après-midi.
Il y avait beaucoup d'émotions parce que je repensais sans cesse à ces paroles de Simone Veil qui s'excusait de s'exprimer devant un hémicycle presque entièrement composé d'hommes. Et c'est très émouvant d'être la première femme présidente de l'Assemblée nationale, mais première femme à présider un congrès sur ce sujet-là, sur cette liberté pour pouvoir la constitutionnaliser. Donc il y a une émotion très forte parce que le monde a changé, la société a évolué et on le voit de façon tangible, en acte par ce que nous venons de faire, mais aussi par qui a porté cette réforme, des femmes à l'Assemblée, des femmes au Sénat et moi en tant que première femme présidente du Congrès.
Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et alors que le Parlement votait cet après-midi, une marche pour la vie a été organisée par des anti-IVG à Versailles, là où se tenait le Congrès. Environ 650 manifestants selon la police. Une hostilité à l'avortement minoritaire en France, mais toujours vivace ailleurs, aux États-Unis notamment, où la Cour suprême a annulé l'an dernier l'arrêt Roe versus Wade, garantissant ce droit aux femmes. L'IVG fait partie des thématiques de la campagne présidentielle américaine. Chez les Républicains, Donald Trump, grandissime favori, brigue un nouveau mandat, un obstacle en moins sur sa route. Aujourd'hui, Sébastien Paour, la Cour suprême autorise le milliardaire à concourir dans le Colorado, annule une décision de justice de cet État dénonçant sa responsabilité dans l'assaut du Capitole.
Le nom Trump peut bien apparaître sur les bulletins de vote demain dans le Colorado. Les 9 juges de la Cour suprême annulent la décision de leurs confrères et ils le font à l'unanimité. Ils ne se prononcent pas sur le fait de savoir si Trump est un insurrectionniste ou pas, s'il a participé ou pas à une rébellion le 6 janvier. Les procès s'en chargeront. Ils affirment seulement que l'article l'article 3 du 14e amendement de la Constitution sur lequel s'appuyaient les juges des Rocheuses ne s'applique pas à Trump. Il rappelle seulement que seul le Congrès peut retirer le nom d'un candidat du bulletin de vote. Pas un État. C'est une décision de procédure seulement, mais c'est la plus importante de la Cour suprême concernant une élection présidentielle depuis celle qui a donné la victoire à Bush contre Gore en 2000. Trump parle d'ailleurs déjà sur X d'une grande victoire pour l'Amérique. Il reste éligible dans le Colorado et cela enterre les procédures similaires qui attendaient dans le Maine et l'Illinois et lui laisse la voie libre pour se présenter en novembre. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Aux États-Unis, toujours quatre anciens dirigeants de Twitter portent plainte contre Elon Musk. Ils accusent le propriétaire du réseau social, désormais nommé X, de les avoir licenciés pour négligence grave, pour ne pas payer leurs indemnités de départ. Les plaignants réclament quasiment 130 millions d'euros aux milliardaires. Le chef de l'ONU dément avoir tenté d'étouffer un rapport sur les viols du Hamas le 7 octobre. Un document de l'organisation publié ce soir estime qu'il existe de bonnes raisons de croire que des victimes de l'attaque du mouvement islamiste en Israël ont été violées, tout comme certains otages détenus à Gaza. En France, vers un procès dans l'affaire Pierre Palmade, près d'un an après l'accident de la route dans lequel le comédien a percuté une voiture de plein fouet en conduisant sous drogue, trois blessés graves, une femme enceinte a perdu son bébé. Charlotte Piret, le parquet de Melun, demande donc un procès pour homicide et blessures involontaires aggravées.
C'est une des questions juridiques qui a émergé dès les tout premiers jours après le drame et cette césarienne déclenchée en urgence à laquelle le fœtus n'a pas survécu. Très vite, il a donc été question de savoir si le bébé porté par cette passagère de 27 ans était né vivant. Une expertise médicale a répondu que non et le débat aurait pu s'arrêter là. Car la jurisprudence de la Cour de cassation est assez claire et ce principe même qui protège le droit à l'avortement, par exemple, empêche la qualification d'homicide pour le fœtus mort avant l'accouchement. Mais l'expertise effectuée indique également qu'à son niveau de maturité, l'enfant à naître était potentiellement viable et qu'il existe un lien de causalité directe entre l'accident et sa mort in utero. C'est donc sur ce lien direct que s'appuie le parquet de Melun pour réclamer un procès du comédien de 55 ans pour homicide involontaire, tout en laissant au tribunal la liberté, pour ne pas dire la charge, de trancher cette si délicate question au cours d'un futur procès. Alors il ne s'agit pour l'instant que de l'avis du ministère public et c'est maintenant à la juge d'instruction de décider seule de l'infraction pour laquelle Pierre Palmade sera jugé.
Les explications de Charlotte Piret sur France Inter. L'effondrement partiel d'un pont en construction sur le chantier du métro au sud de Toulouse fait un mort aujourd'hui. Deux autres ouvriers sont gravement blessés. Une vingtaine de mètres de pont de la future ligne C se sont effondrés au total. Plus d'une centaine de chefs d'établissement scolaires parisiens rassemblés devant la Sorbonne. Aujourd'hui, ils apportent leur soutien aux proviseurs du lycée Maurice Ravel du 20e arrondissement, ciblés par des menaces de mort sur Internet après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Mathilde Bouquerel, les collègues montrent leur solidarité.
Comme Christophe Laborde, proviseur au lycée Victor Duruy à Paris, venu exprimer son inquiétude.
Nous sommes de plus en plus exposés, non seulement sur des affaires scolaires, mais aussi sur des affaires de valeurs. Les atteintes à la laïcité sont inacceptables et nous devons être des remparts. Mais il faut que nous soyons soutenus, et notamment soutenus par la société.
L'élève du lycée Ravel affirme en fait que le proviseur l'a frappée au niveau de l'épaule alors qu'elle remettait son voile avant de sortir du lycée. Elle a porté plainte, des camarades ont témoigné au commissariat. L'affaire a ensuite enflé sur les réseaux sociaux, des circonstances qui rappellent celles qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty pour Catherine Nave-Bekti, secrétaire générale du SGEN CFDT.
On est bien dans une logique de cabale sur les réseaux sociaux, de décrire les faits de manière déformée et de diffuser des appels à la violence et des appels au meurtre. Donc c'est particulièrement important que le ministère de l'Éducation nationale et les autorités publiques se soient organisés pour faire supprimer des messages et mettre un terme à cette inflation de messages d'appels à la haine, parce qu'on voit bien que ce terreau, parfois, malheureusement, il peut déboucher sur des passages à l'acte.
Et le proviseur, quant à lui, a porté plainte pour intimidation envers une personne participant à une mission de service public.
Et une enquête pour cyberharcèlement est ouverte. Une libération et un soulagement pour Clarisse Kremer, la skippeuse blanchie des accusations de triche qui pesaient sur elle. Elle était soupçonnée d'avoir reçu des informations non autorisées de la part de son mari, qui est marin également, lors du dernier Vendée Globe auquel Clarisse Kremer participait. Rien d'irrégulier, dit un jury international, Jérôme Val.
Aucune aide météo pour l'aider dans sa trajectoire, aucune aide à la performance, aucune mauvaise conduite. Les conclusions du jury ne laissent pas de place au doute. Clarisse Kremer n'a pas triché, elle n'a pas reçu d'assistance de la part de son mari Tanguy Le Turquet, lui aussi navigateur mais qui était à terre il y a 3 ans. Cette affaire avait démarré par l'envoi anonyme de 14 captures d'écran d'un téléphone qui se trouvait à bord du bateau. On y voit dans ces messages par exemple des propositions de route pour le monocoque, mais avec des informations insuffisantes, explique le jury, pour vraiment assister Clarisse Kremer. Cela tient plus, je cite le rapport, du fait qu'en tant que mari, il voulait comprendre les intentions de Clarisse pour se rassurer sur sa sécurité. Le jury international conclut que ces messages envoyés par un mari à sa femme n'étaient pas une chose sage ou nécessaire, mais rien de plus. Clarisse Kremer va donc pouvoir poursuivre sa préparation pour le prochain Vendée Globe, mais le débat sur ce que doit être une assistance sur un tour du monde est loin d'être éteint.
Et Jérôme Val de la direction des sports de France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Élodie Calac, la météo.
Pluie ou averse au menu, ce soir et cette nuit, les pluies traversent le pays d'ouest en est. On les retrouvera demain matin près des frontières du nord et sur la façade est. Il neigera sur les massifs, attention au risque d'avalanche. Ailleurs, le ciel sera partagé, quelques éclaircies, elles s'élargiront un peu l'après-midi. Il faudra composer avec le vent, avec des averses également. Elles seront plus nombreuses sur l'ouest, parfois soutenues et orageuses sur le sud-ouest, sur la Normandie également. En montagne, ce sera de la neige. Les régions méditerranéennes resteront à l'écart, ce sera ensoleillé avec du vent, une rare averse possible. Les températures seront globalement de saison avec souvent 2 à 10 degrés le matin. L'après-midi, 8 à 13 degrés avec 10 à Cherbourg, Paris, Nancy, Clermont-Ferrand ou Tarbes, jusqu'à 14 à 17 sur le sud-est, les 17 en Corse.
Élodie Calac, Météo France, merci.